en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Si les organismes vivants sont sortis de l'eau par hasard, ce n'est pas par hasard qu'ils se maintiennent hors de l'eau. La vie dépend beaucoup des échanges d'eau entre les milieux différents, intra- et extracellulaires, fluides internes et monde extérieur. La couche d'eau localisée à la surface des protéines est déterminante, par exemple pour leurs propriétés fonctionnelles. Vous l'aurez compris, l'Académie des sciences s'est intéressée à l'eau sous toutes ses formes au cours d'une séance en mars 2009 sur l'eau dans les systèmes biologiques. Canal Académie vous transmet cette séance en deux parties. Retrouvez dans ce premier volet les interventions de Paul Carreau, Bernard Cabanne et Gilles Boeuf. Paul Carreau est directeur de recherche honoraire au CNRS. Il est correspondant de l'Académie des sciences. Il s'exprime sur l'eau, liquide de la vie. Bernard Cabanne est également correspondant de l'Académie des sciences. Il travaille au laboratoire physique et mécanique des milieux hétérogènes à l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris. Il s'intéresse aux molécules hydrophobes dans l'eau. Enfin, Gilles Boeuf est professeur des universités, président du Muséum national d'histoire naturelle. Il développe la question de l'eau, une molécule clé pour le vivant. Tout de suite, Paul Carreau.
La première chose qui compte dans l'eau, ce sont ses propriétés physiques. Propriétés qui sont extrêmement spécifiques et qui ont certainement permis l'apparition de la vie sur la Terre. La première condition étant la zone de stabilité thermodynamique de l'eau liquide dans le diagramme des états de l'eau, qui se trouve correspondre aux températures moyennes de la plus grande partie de la surface terrestre. Le deuxième paramètre qui a joué un rôle fondamental, c'est le fait que la glace est plus légère que l'eau et donc flotte à sa surface, ce qui maintient du liquide sous la banquise, qui a évité aux océans de geler jusqu'au fond et donc de conserver une vie dans l'eau liquide. Alors ces deux paramètres sont probablement les plus importants. Il faut y ajouter une paramètre beaucoup plus chimique qui est la question de la liaison hydrogène. Alors la répartition des charges électriques dans la molécule d'eau qui a été très étudiée se compose d'un centre négatif sur l'oxygène et d'un centre positif sur chacun des hydrogènes. Et naturellement, les plus et les moins impliquent des interactions électrostatiques entre les molécules et d'abord entre les molécules d'eau entre elles. Ces liaisons que l'on appelle des liaisons hydrogènes sont souples et déformables. Elles sont essentiellement électrostatiques, mais sont cependant environ 10% covalentes d'après des mesures effectuées sur la glace à l'ESRF à Grenoble il y a quelques années. Alors beaucoup de physiciens ont laissé supposer ou disent que l'eau est un liquide anormal. Alors pourquoi ? La raison est un peu particulière. C'est qu'on observe des variations de propriétés physiques avec la température et la pression qui semblent illogiques. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a des minima, de temps en temps, il y a des maxima, et d'une propriété à l'autre, ça change tout le temps. Les spécialistes ont étudié jusqu'à 63 propriétés physiques de l'eau, comme la vitesse du son, des choses comme ça, qui ont ces maxima ou minima qui paraissent incohérents. La propriété la plus remarquable étant le maximum de la densité à 3,984 degrés centigrades. Donc, nos collègues ont prétendu que l'eau était un liquide anormal. En fait, ce qui change avec la température et la pression, c'est la géométrie et la force des liaisons hydrogènes, et surtout le fait que les propriétés ne suivent pas une variation linéaire. Mais à part ça, c'est le jeu des liaisons hydrogènes qui fait toute la difficulté selon la propriété physique mesurée. Alors, puisqu'on parlait de controverse, je vais mentionner une controverse récente que j'ai baptisée la querelle des tétraèdres, qui a duré de mai 2004 à juin 2006 et qui est liée à la question de la structure intime de l'eau. Alors, depuis les travaux de Bernard et Fowler en 1933, qui ont analysé la structure de la glace par rayons X, on sait que dans l'eau, une molécule est entourée de quatre autres disposée dans une géométrie proche de celle du tétraèdre. Alors, c'est une proposition qui est admise depuis tout le temps, mais en mai 2004, apparu dans Science, un article qui affirme, d'après des mesures faites à l'aide du rayonnement synchrotron, que la majorité des molécules d'eau participent à deux liaisons hydrogènes seulement. Alors, ça fait un bruit énorme, cet article, et tout de suite, on a cherché à vérifier, et on a critiqué pas tellement les mesures, mais surtout l'interprétation qui étaient faites des mesures, c'est-à-dire l'absorption du rayonnement synchrotron au voisinage du seuil de l'oxygène, et il s'en a résulté une très vive querelle à laquelle ont pris part un grand nombre de laboratoires fameux sur la planète. Alors, ça se termine en fait en juin 2006 par la réhabilitation du modèle tétraédrique, comme les principales références l'indiquaient, mais il y en a évidemment beaucoup. Et donc, on est passé d'une idée que on pouvait avoir une véritable révolution dans les liaisons entre molécules d'eau jusqu'à un retour à la situation classique. C'est-à-dire que les modélisateurs se sont beaucoup occupés de modéliser les liquides. En particulier, ces liquides à base d'eau, il y a plusieurs modélisations qui ont demandé des calculs absolument astronomiques. Il y a déjà quelques années, qui ont été faites par les chercheurs d'IBM, et même des petits films où on peut voir s'agiter les molécules d'eau. Alors, donc, la raison, c'est que la dynamique moléculaire de l'eau traduit une molécule d'eau très mobile qui se réoriente en 2 picosecondes. Madame Bélisson-Funel a fait ses travaux il y a déjà quelques années, mais que les protons ou leurs hydrates sont également très mobiles. Alors là, il y a des études récentes sur les cations hydrogènes dans l'eau. Naturellement, les cations hydrogènes, les protons, jouent un rôle, très grand rôle dans les phénomènes biologiques, passage de membranes dans les cellules, énergétique des enzymes, etc. Ils diffusent très vite dans l'eau grâce à un mécanisme du type Grotthus. Grotthus est un savant balte qui a proposé ce mécanisme il y a très longtemps, en 1806, dans les annales de chimie, dans lesquelles les molécules d'eau se décomposaient et se recomposaient pour arriver d'une électrode à une autre. Alors, les protons sont hydratés. On sait depuis assez longtemps qu'ils forment des ions, H3O+, ou cation d'Eigen, ou H5O2+, qui est le cation de Zindel. Alors, ces ions peuvent être étudiés expérimentalement, et en particulier, on obtient des spectres infrarouges très détaillés. Et ces spectres ont fait récemment l'objet de calculs informatiques destinés à les simuler. Ça a été publié dans le Angewandte Chemie et c'est destiné à mieux comprendre les interactions du proton avec l'eau. Il y a un commentaire de Nature qui date du mois dernier, février 2009, sur ces travaux, d'où on espère qu'on comprendra comme ça un peu mieux comment les cations circulent dans l'eau. Ce qui prouve que c'est quand même une question qui peut être classique, mais qui n'est toujours pas complètement comprise. Alors, à côté de ça, il y a des eaux extrêmes, aux marges de l'eau ordinaire. Il y a l'eau surfondue, qui est connue depuis le 19e siècle, qui peut rester liquide jusqu'à moins 41 degrés centigrades à la pression ambiante et moins 92 degrés centigrades à 2 kilobars, qui a fait l'objet d'énormément d'études, dans la mesure où c'est un liquide qui intrigue beaucoup les spécialistes. À l'autre extrémité du diagramme thermodynamique, il y a l'eau supercritique, qui est stable à une température supérieure à 374 degrés centigrades, à une pression supérieure à 221 bar, pour lesquels liquide et vapeur ne se distinguent plus et forment un fluide d'une densité de 0,32 g par centimètre cube. C'est un liquide très différent de l'eau, pour une raison importante, c'est qu'il n'a plus ses propriétés diélectriques qui font que l'eau, ayant une constante diélectrique élevée, sépare facilement les ions, mais qu'au contraire, la constante diélectrique est beaucoup plus basse, et le résultat, c'est que l'eau se comporte comme un solvant organique dans l'état supercritique. D'ailleurs, c'est un état qui a laissé beaucoup d'espoir pour le traitement des déchets, puisque, en plus, on peut entretenir des combustions dans l'eau supercritique, donc on peut brûler des choses, avec flamme d'ailleurs, et ceci a soulevé pas mal d'espoir pour l'élimination de déchets dangereux. On mentionne en particulier les toxiques de guerre, les produits chimiques de guerre qui sont délicats à éliminer. Alors, il y a aussi l'eau solide, évidemment. Je veux dire qu'il y a un grand nombre de variétés de glace. Il y en a au moins 14 actuellement. On va sûrement en trouver quelques autres bientôt. Mais aussi, les techniques d'hypertrempe empruntées aux chimistes du solide ont permis de préparer deux phases amorphes de l'eau solide. L'une, LDA, qui est une forme à basse densité, se forme à moins 138 degrés par condensation de la vapeur d'eau sur des pièges froids, hein. Elle a une densité donc de 0,94 g par centimètre cube. L'autre, HDA, haute densité, est obtenue à haute pression et une densité plus élevée, de 1,17 g par centimètre cube. Il en existe encore une autre, un peu plus dense, qu'on peut obtenir en manipulant les conditions d'apparition de ces phases, les conditions de piégeage des vapeurs, ou le jeu entre ces phases condensées et la pression. Je veux dire, ça complique beaucoup la compréhension du diagramme thermodynamique de l'eau à basse température, mais aussi on a pu spéculer sur l'existence potentielle de deux eaux de densité différente. En fait, M. Tarek, qui est là, a travaillé avec ses collaborateurs et a montré que c'était un modèle qui pouvait être intéressant pour l'eau d'hydratation des protéines. Donc ces états de basse température sont éventuellement intéressants pour les températures ordinaires. Maintenant, la grande propriété des matériaux vis-à-vis de l'eau, c'est l'hydrophilie ou l'hydrophobie, c'est-à-dire où j'aime l'eau ou j'en ai horreur. Alors toute substance qui peut donner ou recevoir une liaison hydrogène est attirée par l'eau. Donc beaucoup de composés organiques, bien entendu. Je rappelle qu'à cause de la constante nitrique élevée, les sels sont dissous, au moins en partie, parce qu'il y a la question du produit de solubilité qui va permettre de mesurer quantitativement les solubilités des sels minéraux en particulier. Mais il y a des substances qui n'ont aucun point d'attraction, ni liaison hydrogène, ni ion, par rapport à l'eau. Donc les substances sont hydrophobes, et sur ces surfaces hydrophobes, l'eau peut former des couches structurées. Alors le cas le plus spectaculaire, c'est lorsque les molécules d'eau isolent les molécules hydrophobes, comme les hydrocarbures, en les enfermant dans des cages qu'elles forment au moyen de liaisons hydrogène entre les molécules d'eau. Ces cages sont du type clathrate et d'une géométrie très élaborée basée sur l'icosaèdre. Dans lequel il y a des tas de combinaisons géométriques. Et on a supposé même que des cages de ce genre existent comme clusters dans l'eau. Personnellement, j'y crois pas trop, mais je sais qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui pensent que ça joue un rôle important. Alors, il y a une grande conséquence de cette hydrophobie. Ces hydrates de méthane, structures de type clathrate, qui sont stables à basse température et sous haute pression, qui existent en dépôts solides épais dans certaines zones maritimes et sous le sol gelé du Grand Nord. Alors, c'est un problème économique et géologique extrêmement important, parce que c'est une réserve de carburant fossile potentiel qui serait, dit-on, plus importante que tous les gisements de charbon passés et présents de la planète. Donc c'est un problème majeur sur lequel beaucoup d'États, dont les États-Unis, le Japon et le Canada, puisque le Grand Nord canadien a fait l'objet de plusieurs essais de forage dans son permafrost riche en hydrates de méthane, pour voir si on pouvait exploiter ces dépôts. Mais aussi, on pense qu'il pourrait être responsable de catastrophes géologiques majeures dues à des dégazements soudains de méthane conduisant éventuellement à des explosions, mais aussi à un brutal effet de serre. C'est donc une de ces questions controversées qu'on peut lier à l'eau, d'une certaine manière, et qui est particulièrement débattue entre l'économie, la géologie et puis les problèmes des ressources fossiles. Alors, il existe également de l'eau confinée. Alors dans l'eau confinée, hydrophilie et hydrophobie jouent un rôle d'équilibre dans des situations où les molécules d'eau sont confinées. Par exemple, il y a eu un article assez récent sur les structures de l'eau dans les nanotubes de carbone, où il y a un grand nombre de phases de glace qui peuvent se rencontrer et qui traduisent la gêne qu'éprouvent les molécules d'eau qui se heurtent entre elles dans des espaces trop serrés et à proximité de surfaces. Bon, c'est le cas aussi, évidemment, dans les cellules, dans les milieux biologiques, où il y a beaucoup de sites actifs, dans les membranes ou dans leur surface. Enfin, il y a un article de Mme Bélissant de Funel dans les comptes rendus géosciences. Alors maintenant, on peut se poser une question. Peut-on imaginer la vie sans eau? Alors que l'eau soit la matrice de la vie, c'est évident. Ça paraît évident. Et on pense que c'est un préalable de trouver de l'eau quelque part, préalable à la découverte des formes de vie extraterrestres. Pourtant, il y a d'autres molécules largement présentes dans l'univers qui peuvent avoir des propriétés voisines de celles de l'eau, en particulier les liaisons hydrogène. Alors, elles ne sont pas très hospitalières, a priori, mais il y a l'ammoniac liquide, l'acide sulfurique ou la formamide, qui est liquide de 3 degrés à 210 degrés centigrades, mais qui a l'inconvénient de se transformer facilement en acide cyanhydrique, ou des produits ayant des arrangements structuraux voisins de ceux de l'eau, comme le gaz carbonique liquide, ou même des solvants non polaires, comme les lacs d'hydrocarbures observés sur certains corps célestes. Plus bizarre, la silice fondue à haute température. Alors on voit que par rapport à la vie que nous connaissons, ces milieux sont un peu carrément exotiques, disons, et laissent supposer qu'on a peu de chance de trouver une vie qui évoluerait dans des milieux de ce genre. Il y a un article de revue sur ce sujet-là qui n'est pas trop ancien. Alors, la vie et l'eau, il faut dire que l'origine de la vie sur la Terre est une question obscure. Alors, l'une des hypothèses est le monde fer-soufre, que j'aime bien parce que je suis chimiste du solide, et donc là, on se trouve sur un terrain qu'on connaît assez bien. Les molécules de base de la chimie prébiotique se seraient formées au contact entre l'eau hydrothermale chaude et des minéraux sulfurés. Phénomène de surface joue un rôle important. Il s'agit de minéraux sulfurés que les chimistes du solide considèrent comme des matériaux à valence mixte, dans lesquels on trouve du fer 2, du fer 3, ou des intermédiaires, on peut imaginer les intermédiaires. Donc je cite l'un des articles de M. Wachterhauser, qui fait une étude assez poussée sur comment on pourrait créer finalement des liaisons carbone-carbone à partir de ces milieux-là et des choses simples comme l'oxyde de carbone ou le gaz carbonique. Alors, il y a aussi les enzymes fer-soufre. C'est une observation expérimentale que beaucoup d'organismes utilisent des enzymes dont les sites actifs sont des groupes F4S4 ou F2S2 qui sont simplement des morceaux isolés des structures minérales des sulfures de fer. À la surface des formations hydrothermales, une activité chimique importante pour avoir lieu au contact du solide, donc ce qu'on appelle la zone de liaison des ligands. J'ai malheureusement enlevé les figures de ma conférence pour raison de temps, donc je ne peux pas vous montrer ces enzymes qui ont des structures très spectaculaires, mais toutes centrées sur un morceau des sulfures de fer, sachant que sulfure de fer, ça contient aussi du nickel, du cobalt et toute une série d'autres ions qui peuvent servir d'excellents catalyseurs pour un tas de réactions. Alors, toujours, Wachterhauser a proposé la synthèse de peptides en mélangeant des aminoacides avec du gaz carbonique sur ces surfaces nickel-fer. Et donc, c'est un article pas trop récent, mais quand même quelques années. Et il a observé, effectivement, qu'on pouvait former des peptides, c'est-à-dire des liaisons entre deux ou trois acides aminés en présence d'oxyde de carbone et de H2S. Bon, alors évidemment, les peptides sont des étapes dans la formation des protéines, donc il semble bien que ce monde fer-soufre soit une possibilité pour la fabrication de briques de base de la vie. Alors, il y a aussi la question des sources d'énergie. On a considéré que, vous savez, dans les premiers organismes, il y a des bactéries, il y a des archéas qui sont voisins des archéas, et découverts relativement récemment d'ailleurs. Et le problème là, c'est la recherche du LCA, le Last Common Ancestor. Alors c'est un peu un mythe, hein, bien sûr. À quoi pouvait-il ressembler? Certainement pas très volumineux, on peut penser. Mais il est possible que la première source d'énergie pourrait être plutôt la réduction du fer trivalent en fer divalent. Encore une fois, c'est des opérations qu'effectuent facilement les sulfures de fer et autres matériaux sulfurés, métalliques, et donc c'est peut-être une piste pour l'énergie nécessaire à ces premières opérations qui traînent autour de la vie. Alors d'accord, les morceaux de structure de sulfure de fer, proposés donc pour des sites enzymatiques, sont des ensembles à valence mixte. Et on observe que bactéries et archéas se développent bien dans un milieu contenant de l'oxyde de fer qu'ils réduisent en oxyde magnétique. Effet 3 ou 4. Alors, naturellement, il y a des dépôts d'oxyde magnétique dont on pense qu'ils sont d'origine biologique. Et semble-t-il, on a posé la question pour la planète Mars. Enfin, si on trouve des dépôts d'oxyde magnétique sur la planète Mars, sont-ils d'origine microbienne? Alors, attendez, j'ai repris ça, il faut que je reprenne en arrière. Alors voilà, puisqu'on parle de petites choses qui pourraient être voisins de notre plus ancien ancêtre, il faut préciser que la mer abondent en petits êtres. Parmi les plus minuscules, les virus, dont la concentration est de 3 10 6 par centimètre cube au fond des océans et 10 8 par centimètre cube dans les eaux côtières. Alors c'est absolument énorme. Mis bout à bout, les virus des océans terrestres formeraient une chaîne longue de 10 millions d'années-lumière. Il y a aussi la conversion du poids des virus en baleines. J'ai oublié combien ça fait de baleines, mais c'est aussi assez considérable. Donc, alors, je mets forme de vie, entre guillemets, la plus abondante dans l'océan. Il montre de plus une très grande diversité génétique et joue un rôle dans les processus biologiques et océanographiques, de plus en plus. Il y a un article très important dans Nature de 2005 qui fait le point sur ces questions de virus dans la mer. Il y en a d'autres depuis également. Et donc ça, c'est probablement un problème comme première manifestation de la vie, entre guillemets, qu'il faut considérer de près, dans la mesure où il y a quand même là une trace très abondante que la mer est un milieu très favorable à l'existence des virus. Alors, il y a dans le monde animal aussi des curiosités qui ont un étrange rapport à l'eau. Alors, il y a des animaux qu'on appelle des bdelloïdes, qui sont des rotifères, qui sont capables, si on les stresse, de se déshydrater complètement et d'entrer en léthargie. État dont ils peuvent facilement sortir, il suffit de rajouter quelques gouttes d'eau. Mais ils résistent également bien aux basses températures et hautes températures, au rayonnement et peut-être aussi aux conditions extraterrestres. Vous savez qu'il y a eu pendant assez longtemps toute une théorie sur laquelle la vie pouvait avoir été importée sur la Terre à travers des météorites, des choses comme ça. Évidemment, le fait qu'il existe des êtres comme ça qui résistent bien et qui peuvent, pendant des dizaines d'années en fait, on peut se poser des questions. Il y a quand même un problème dans la société des bdelloïdes, c'est que leur société est formée exclusivement de femelles depuis des millions d'années. Alors évidemment, je ne sais pas ce qu'on peut en penser au point de vue du féminisme triomphant, mais c'est un fait expérimental. Alors, il y a d'autres espèces qui s'appellent les tardigrades, petits ours d'eau, qui jouissent de propriétés analogues dans un état desséché, que le vent peut les emporter, etc. Donc, il y a une source de dissémination, là, de ces petites bestioles qui retrouvent vie dès qu'il y a de l'eau. Donc, je dirais simplement que j'ai présenté quelques points particuliers de recherche contemporaine qui tournent autour des problèmes que pose l'eau en physique, en chimie, en géologie, en biologie, qui sont des domaines très actifs, où il y a beaucoup de recherches. Je disais tout à l'heure qu'il y a dans Nature ou Science très fréquemment des articles sur ces sujets. Alors, il est évident que l'eau joue un rôle pour le fonctionnement de la vie, mais l'exemple des tardigrades montre qu'il existe aussi des mécanismes qui permettent à la vie de se maintenir sans eau, ce qui évidemment laisse supposer qu'elle pourrait, sous cette forme, un peu desséché, voyager. Voilà, je vous remercie.
Bon, je voudrais vous parler de molécules que vous pouvez trouver dans l'eau et qui ne devraient pas y être. Bon, on va commencer par parler un peu de l'eau. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une brève piqûre de rappel après les excellents exposés de mes collègues. L'eau est un liquide dont les propriétés sont tout à fait extraordinaires. À cause des caractéristiques de la molécule d'eau et à cause des liaisons que les molécules d'eau font entre elles. Sur l'image qui est en haut à gauche, vous avez les orbitales de la molécule d'eau. Vous voyez que ces orbitales sont complètement décalées d'un côté de la molécule, alors que les protons sont de l'autre côté. Donc toutes les charges positives, c'est ici vous avez deux protons en noir sur l'image en haut à gauche, sont d'un côté et les électrons de l'autre. Alors, ça nous amène à notre sujet. Vous avez ce réseau qui est extrêmement fort de liaisons, représenté ici par les petites tiges vertes entre les boules. Comment insérer une molécule étrangère dans ce réseau? Alors, pour les molécules polaires qui participent au réseau de liaisons hydrogène, pour les ions qui, en fait, les remplacent par des interactions électrostatiques, on n'a pas trop de soucis. On imagine que la substitution doit pouvoir se faire. Par contre, pour des molécules apolaires, l'oxygène, l'azote, l'oxyde nitrique, le CO2, qui ne participent pas au réseau, on craint que la substitution soit tout à fait impossible. Et ce qui amènerait à penser de l'eau que l'eau, faut l'aimer ou la quitter, ce qui ne serait pas très sympathique pour beaucoup de molécules. Alors, le modèle le plus simple qu'on peut faire, c'est un modèle de solution régulière, un modèle à structure constante, c'est-à-dire que pour dissoudre des molécules dans l'eau, vous allez extraire une ou plusieurs molécules d'eau. Et bien sûr, ça va vous forcer de perdre, de casser des liaisons hydrogène. Sur le dessin de droite, vous voyez que vous perdez, pour une molécule d'eau, vous perdez 4 liaisons hydrogène. La pénalité que vous payez, c'est énorme. C'est 8 fois l'énergie d'agitation thermique par liaison hydrogène cassée ou 32 fois l'énergie d'agitation thermique pour 4 liaisons hydrogène. La thermodynamique vous dit à ce moment-là que votre limite de solubilité, c'est une molécule de soluté pour 10 puissance 13 molécules d'eau. Donc c'est un nombre extrêmement faible et en plus, elle serait en croissance très rapide avec la température. Cependant, toutes nos observations nous montrent que ce modèle est faux. Les poissons respirent dans l'eau avec l'oxygène qui est dissous dans l'eau. Les plongeurs ont des bulles d'azote quand ils remontent trop vite sans respecter leur palier de décompression. Nous utilisons l'oxyde nitrique comme neurotransmetteur pour la vasodilatation et le CO2 est échangé entre les océans et l'atmosphère. Donc clairement, ce modèle qui prédirait des solubilités quasi nulles est totalement faux. Des observations que vous pouvez faire chez vous, à la maison. Essayez de dissoudre du sel dans l'eau et vous allez voir que la solubilité est faible à basse température, mais que dès que vous chauffez un peu, comme c'est montré sur le dessin de droite, du haut, pardon, et ça se passe beaucoup mieux, donc une solubilité qui croît très vite avec la température. Le sel forme donc des solutions régulières dans l'eau. Par contre, si vous prenez de l'eau dite pure, que vous sortez du réfrigérateur, et puis vous la chauffez, comme c'est indiqué sur le dessin du bas, vers 40 degrés, vous allez voir des bulles sur les parois du récipient. Ces bulles, ce sont les gaz qui étaient dissous dans l'eau à basse température et qui sont exclus quand vous chauffez. Donc la solubilité a une variation inverse à la température, ce qui est tout à fait contraire au modèle de solution régulière. Alors donc nous avons besoin d'un meilleur modèle pour expliquer la dissolution de ces molécules apolaires dans l'eau. Un meilleur modèle, c'est, après tout, on n'a peut-être pas besoin de casser tant de liaisons hydrogène pour insérer une molécule étrangère. Et en bien meilleure manière, c'est de se demander si l'eau fait déjà des cavités dans lesquelles on pourrait insérer les solutés. Donc cherchons les cavités spontanées dans la structure de l'eau et regardons combien ça coûterait d'y insérer un soluté. Alors vous avez les bilans, il y a le coût bien sûr d'arranger un peu les liaisons hydrogène pour faire des cavités, mais c'est faible parce qu'il s'agit de cavités spontanées. Il y a un petit coût pour insérer le soluté, modifier l'interaction van der Waals, c'est tout petit. Il y a par contre des coûts anthropiques. Si vous faites une cavité, vous devez interdire aux molécules d'eau de pénétrer dans cette cavité. Donc là, c'est une pénalité importante. Et puis, il y a le coût anthropique lié à la réorganisation des liaisons hydrogènes. Le bilan total se simplifie merveilleusement parce qu'il y a un théorème thermodynamique qui dit que les deux coûts liés à la réorganisation des liaisons hydrogènes se compensent exactement. Et finalement, la seule pénalité importante que vous payez, c'est l'exclusion des molécules d'eau de la cavité. Alors c'est grand, mais c'est beaucoup moins effroyable que de rompre les liaisons hydrogène. À quoi ressemblent ces cavités? Paul Caro vous l'a dit, elles ressemblent en fait aux cavités qu'on trouve dans les hydrates de gaz, dont un exemple est représenté au milieu de l'image. Cette cavité est merveilleuse, régulière, c'est un dodécaèdre pentagonal. Ce qu'il faut voir, c'est que les molécules d'eau qui sont au sommet du dodécaèdre arrivent à ne perdre aucune liaison hydrogène. Les liaisons hydrogènes sont orientées soit selon les arêtes, soit vers l'extérieur de la cavité. Et donc, ça confirme ce que nous venons de dire, vous pouvez faire des cavités dans l'eau sans perdre de liaison hydrogène, le bilan énergétique est plutôt favorable, et le coût anthropique, vous le payez, c'est l'exclusion de quelques molécules d'eau. Bien entendu, les cavités dans l'eau liquide ne sont pas aussi régulières que le dodécaèdre pentagonal, ce ne sont même pas des icosaèdres, vous avez le désordre farouche qu'il y a dans n'importe quel liquide. Maintenant, vous pourriez m'objecter, avec raison, que si on prend des cavités plus grandes, il ne va pas être possible de conserver toutes les liaisons hydrogène. Et donc le coût énergétique, fatalement, va être moins favorable, et le coût anthropique va être beaucoup plus grand, puisque vous allez exclure beaucoup de molécules d'eau. Un nombre qui est utile à retenir pour une vie ultérieure, c'est ce que ça coûte par carbone supplémentaire dans une molécule pour la transférer dans l'eau. C'est 1,5 fois l'énergie d'agitation thermique, ça vous fait une vingtaine de fois l'énergie d'agitation thermique pour une molécule modeste qui a une douzaine de carbone. Donc, avec un modèle amélioré, nous prédisons des solubilités dans l'eau qui sont très supérieures, certes, au modèle des solutions régulières, qui nous donnent, on peut dissoudre quelques molécules, c'est quand même une solubilité faible, de l'ordre de 10-4 à 10-6 mol par mol. Je vais maintenant vous parler de deux exemples de grandes molécules hydrophobes qui sont solubles dans l'eau à des concentrations modestes et qui ont néanmoins des effets biologiques très importants. Le premier exemple dont je voudrais vous parler, c'est les molécules des médicaments. Nos collègues pharmaciens classent les molécules suivant deux caractéristiques, leur solubilité dans l'eau et leur aptitude à passer les membranes des cellules biologiques. Alors vous avez les quatre classes ici, vous voyez bien, vous devinez que la première classe, la classe 1, ne pose aucun problème de biodisponibilité. Par contre, la classe 4 pose des problèmes effroyables. Malheureusement, la classe 4 forme à peu près la moitié des molécules en développement actuellement. Alors, est-ce que c'est du masochisme de la part des pharmaciens? En fait, pas du tout. C'était très bien expliqué dans un merveilleux article par Christopher Lipinski, qui avait tabulé les masses molaires des molécules pharmaceutiques découvertes en fonction de leur année de découverte. D'où ça vient? Bien entendu, nous demandons toujours plus de spécificité et d'efficacité de la part des molécules des médicaments. Donc, ça veut dire des masses molaires plus élevées. Des masses molaires plus élevées, ça veut dire que ces molécules vont cristalliser et donc on paye une pénalité dont je n'ai pas parlé encore, qui est l'énergie qu'il faut pour fondre, pour briser le réseau cristallin. D'autre part, des masses molaires plus élevées, ça veut dire plus de groupes hydrophobes, donc vous allez payer l'entropie d'exclusion des molécules d'eau de la cavité. Et le bilan, si vous payez à la fois l'énergie de réseau, de fusion, et puis l'énergie de transfert, ça vous donne des solubilités qui sont très faibles. Alors, voilà ce qui va vous arriver si vous essayez d'administrer des cristaux de molécules, de grandes molécules hydrophobes. La solubilité d'équilibre est très faible, 10-6, 10-5 grammes par gramme. Ces cristaux sont grands, donc ils ont une surface spécifique réduite. Du coup, la dissolution est lente et pratiquement, vous avez une dissolution nulle pendant le temps de transit. Donc, ce n'est vraiment pas la peine d'administrer les médicaments. On n'est pas tout à fait démunis dans cette situation. Deux choses qu'on pourrait faire. Une, c'est d'utiliser des particules amorphes. La solubilité serait 10 fois plus grande parce qu'on évite de payer le prix de la fusion. Et puis, faire des particules, des nanoparticules qui auraient une surface spécifique très élevée. On peut arriver à 100 mètres carrés par gramme de produit. À ce moment-là, si les cellules épithéliales pompent de manière efficace, il y aurait une dissolution très rapide. Bon, à condition que nous puissions faire effectivement des molécules hydrophobes, des molécules hydrophobes dans l'eau, à cette échelle et les conserver à l'état amorphe. Alors, pour la fabrication, il n'y a pas trop de problèmes. C'est une expérience que vous pouvez même faire à la maison. Vous dissolvez vos molécules hydrophobes dans un solvant miscible à l'eau, dans l'acétone par exemple, et puis comme c'est marqué avec la seringue qui va dans l'eau, vous injectez ça dans de l'eau avec un peu de tensioactif, l'acétone et l'eau se mélangent, et peu à peu, les molécules hydrophobes se trouvent abandonnées dans l'eau. Abandonnées, donc sous l'effet du mouvement brownien, elles vont se rencontrer, dès qu'elles se rencontrent, elles s'agrègent, et vous allez faire des particules dont la taille sera déterminée par le tensioactif. Donc, la biodisponibilité des grandes molécules hydrophobes est limitée par la faible solubilité de leurs cristaux. On peut bien sûr faire des particules amorphes qui ont une solubilité plus élevée, mais ces solubilités élevées conduisent à la perte de l'état amorphe. Donc, on est un peu coincé, on a un verrou. En fait, ça c'est un exemple d'un verrou. Il y a des alternatives, utiliser des transporteurs, mais on continue à rencontrer des problèmes du même genre. Donc, on peut dire que nous ne savons pas bien réguler cette biodisponibilité. Le deuxième exemple que je voulais vous présenter, il s'agit des tanins qui sont produits par les plantes. Quand vous buvez votre tasse de thé, si vous prenez de l'eau bouillante et que vous la laissez refroidir, vous voyez un film qui flotte sur la tasse de thé et qui remonte sur les bords. Ça, ce sont les tanins qui étaient dissous dans l'eau et qui sont sortis de l'eau lors du refroidissement. Les tanins ont deux propriétés importantes. Ils se lient aux protéines, ce qui leur donne des effets antinutritionnels forts, pas très sympathiques. Par contre, ils ont des effets bénéfiques, qui sont des capteurs de radicaux libres. Où trouvons-nous des tanins? Partout, dans tout le monde végétal, dans les raisins, les pommes, les baies, dans les écorces des arbres. Et nous les buvons dans toutes les boissons à base de plantes, le thé, le vin, le cidre, le cacao. Alors, pourquoi les plantes produisent-elles des tanins? Pour deux raisons. La première raison, c'est la résistance aux parasites. Si vous avez un parasite qui est en train d'essayer d'envahir une plante, c'est difficile à pénétrer parce que les cellules ont des parois en cellulose et en pectine. Alors, le méchant parasite libère des enzymes gloutons qui sont des cellulases et des pectinases qui vont casser ces parois et qui lui permettent d'envahir la plante. Et pour se défendre, la pauvre plante, en fait, libère des tanins qui précipitent les enzymes et donc permettent de conserver l'intégrité des parois cellulaires. L'autre raison, c'est la protection contre les herbivores. Les herbivores digèrent les protéines de l'alimentation par des enzymes gastriques. qui coupe en petits morceaux les protéines jusqu'à ce qu'elles puissent être digérées. Les tanins précipitent ces enzymes et donc les protéines ne sont pas digérées, la nourriture devient indigeste, ce qui réduit sa consommation. Donc les tanins sont en fait un des principaux systèmes de défense des plantes. Néanmoins, les herbivores et nous-mêmes consommons des tanins dans notre administration, dans notre alimentation. Comment évitons-nous les effets antinutritionnels des tanins ? En fait, nous nous servons des protéines de la salive. Notre outil, ce sont des protéines de la salive qu'on appelle basiques et riches en proline. Ces protéines sont présentes chez les herbivores, elles sont absentes chez les carnivores qui n'en ont pas besoin. Et leur fonction, c'est de piéger les tanins avant qu'ils n'atteignent nos enzymes digestives, et puis de donner ce signal qu'on appelle l'astringence, qui est une sensation tactile dans la cavité buccale, qui est une espèce de signal d'alerte, attention, cette nourriture est un peu toxique, il vaut mieux pas en prendre trop. Pour ce qui est de la capture des tanins, nous avons fait d'autres expériences en présence de tanins, et c'est assez remarquable, en fait, quand on ajoute un peu de tanins, il ne se passe absolument rien, jusqu'à un seuil en concentration de tanins, au-delà duquel les protéines s'agrègent et forment ces espèces d'agrégats denses dans lesquels les sections prolines sont avec les tanins à l'intérieur, tandis que les oligosaccharides sont à l'extérieur. Voilà, donc ce processus, ce que nous avons trouvé, c'est un processus d'agrégation des protéines glycosylées qui est assez remarquable pour plusieurs raisons, parce qu'il y a un seuil, parce que les agrégats sont denses et parce que la taille des agrégats est limitée à cause des oligosaccharides. Ça a un nom, ce genre de processus, ça s'appelle un processus de mycélisation, c'est bien connu pour les tensioactifs et les copolymères. Il est efficace en ce qui concerne les fonctions que la nature veut assigner à ces protéines. D'abord parce que tous les tanins sont capturés dès que se forment ces agrégats, donc au-dessus du seuil. Et ensuite parce que, comme les protéines sont condensées, vous perdez la fonction lubrifiante. Voilà, donc je terminerai avec deux remarques. Nous avons trouvé que des protéines qui sont non structurées ont une relation structure-fonction qui marche très bien et des fonctions qui sont très sophistiquées. Elles contrôlent la biodisponibilité des tanins de deux manières, en les capturant et en donnant un signal d'alerte. C'est un peu contraire au dogme ancien de la biologie structurale qui nous faisait penser que seules les protéines structurées, donc comme celles dont les images sont à gauche, peuvent avoir une fonction précise. Mais d'autres gens que nous ont trouvé la même chose. Effectivement, c'est une des tendances de la biologie structurale moderne, c'est de reconnaître que les protéines non structurées, qui forment à peu près 25% de toutes les protéines des eucaryotes, ont des relations structure-fonction très, très efficaces. Et pour revenir au sujet de mon intervention, des grandes molécules hydrophobes, comme les tanins et ces protéines, ont des solubilités dans l'eau qui sont plus grandes que se feraient croire les modèles naïfs de solutions régulières et peuvent avoir des effets physiologiques et biologiques importants.
Je vais me mettre à un niveau plus macroscopique et je vais revenir à l'organisme. Pour vous rappeler une chose fondamentale, c'est que cette vie dont on parle sur la Terre, en fait, elle n'a passé que 10% de son histoire hors de l'eau. Et je vais revenir justement à ces origines de la vie dans l'eau, à la question de la sortie de l'eau, et puis ensuite à des questions actuelles. Alors en fait, n'oublions pas que cette image, je l'aime beaucoup, elle a été faite lors d'une des premières missions Apollo, parce que c'était la première fois en fait que des humains, en vol orbital après les expériences russes et américaines, voyaient en fait dans la totalité le globe terrestre à travers une petite fenêtre. Et on se rendait compte de l'importance de l'océan sur cette planète Terre, en fait, qui est d'abord une planète océan. On le savait après les grandes découvertes, mais là, on le voyait d'un seul coup. Et tous ces gens qui ont vécu ces moments le rappellent en permanence sur cette importance de l'océan. Je vous rappellerai aussi qu'aujourd'hui, l'océan, c'est plus de 70% de la surface de la planète. Cette vie est apparue dans l'océan. Et aujourd'hui, si je prends simplement les phyla animaux, dans la biodiversité actuelle, on en connaît environ 34. 14 n'ont jamais quitté l'océan. Ils sont apparus dans l'océan. Ils n'en sont jamais sortis. Je prends un exemple très frappant, les échinodermes. Il n'y a aucun oursin, aucune étoile de mer capable de vivre en eau saumâtre ou hors de l'eau. Et simplement, tout à l'heure, je revenais à ce que disait Paul Caro quand il parlait des biomasses de virus ou de bactéries. Les seules bactéries marines, à elles seules, font plus de 10% de toute la biomasse vivante de la planète. Les virus, tout à l'heure, il parlait en termes de masse de baleine, c'est pratiquement l'équivalent de la biomasse des végétaux terrestres. Donc c'est vrai que cette vie marine est très particulière. Aujourd'hui, on a dénombré un peu moins de 300 000 espèces marines. dont 93 000 sont liées aux exclusifs récifs coralliens. Une espèce marine sur trois est liée aux récifs coralliens, donc toute l'importance effectivement des questions qu'on voit aujourd'hui en matière de diversité et de perte de diversité liée au corail. Ce qui veut dire que sur le 1,8 million d'espèces connues aujourd'hui, l'océan n'en a que 13%. Par contre, possède beaucoup plus de groupes au niveau des phylas que j'évoquais tout à l'heure. Alors en fait, des images pour vous frapper un petit peu, c'est une région que je connais bien, c'est Atacama, c'est à la frontière entre le Chili et le Pérou. C'est le désert le plus azoïque de la planète, il n'y a rien. Il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de scorpion, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a rien du tout. Quand vous laissez un corps humain, il se dessèche, on retrouve les yeux, les cheveux, les pupilles en place, les oreilles de ces corps humains qui ont entre 2 et 4 000 ans. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a très peu d'activité bactérienne. Et je vous ai mis en bas des cas extrêmes, je vous ai mis sur une graine de date, qui contient simplement 5% d'eau. Tout à l'heure, en parlant de ces cellules, Marie-Claire disait une cellule 70% d'eau. Là, vous avez des êtres vivants qui sont en situation de stand-by, d'attente, extrêmement peu hydratés. Je reviendrai tout à l'heure au tardigrade de Paul et puis à ces petits rotifères. Et je vous ai mis une méduse marine à côté. Une méduse, c'est 98% d'eau en termes de biomasse, ce qui veut dire que la méduse vous empoisonne quand vous marchez dessus, effectivement, sur la plage ou quand vous la touchez dans l'eau. Mais il n'y a que 2% de choses qui ne sont pas de l'eau. Et depuis l'âge des méduses, environ 800 millions d'années, la mer a rejeté sur une plage des méduses. Ça s'est passé des milliards de fois. Et des milliards de fois, s'il n'y avait pas une vague salvatrice qui récupérait la méduse et qui la ramenait à l'eau, et bien ces méduses, elles mouraient, elles continuaient à mourir. Alors, le miracle dans ce désert côtier que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle, lié au phénomène El Niño, à l'oscillation sud-pacifique, ce qu'on appelle là-bas El Desierto Florido. Il pleut à peu près tous les 14 ou 15 ans. Et le désert se couvre de fleurs. Voilà une belle image de diversité biologique. Mais imaginez tout le cortège de coléoptères ou du papillon qui vont avec, qui vont vivre pendant 2 à 3 semaines, et tout va repartir vers une aridité extrême pendant encore 12 ou 14 ans. Alors, cette vie est apparue effectivement dans l'océan primitif. Alors, pendant très longtemps, on avait très peu de moyens d'aborder ceci, parce qu'on n'avait pas les outils moléculaires qu'on évoque depuis le début de l'après-midi. Et maintenant, grâce à ces outils, en particulier au typage moléculaire, les séries d'ARN 16S, 18S, ça dépend si on fait du pro ou de l'eucaryote, on fait des trees of life, on fait des arbres de vie, et on reclasse comme ça le vivant, puisqu'une bactérie ou un virus ou une archée, c'est pas évident effectivement à organiser au niveau de sa forme ou de sa situation. Et ces arbres de vie sont extrêmement informatifs. On fait beaucoup maintenant, bien sûr, de génomique comparée, on compare des génomes en masse, surtout de micro-organismes. On en a pratiquement un nouveau par jour sur ces micro-organismes. Il y a des centaines de projets à l'heure actuelle, donc de séquençage complet, même chez les métazoaires évolués. Et ces arbres de vie sont extrêmement utiles pour comprendre un petit peu comment ça a pu se passer. Alors je vous ai mis une image en bas, prise dans le nord de l'Australie, avec ici ces couches de milliards, de milliards, de milliards de cellules de cyanobactéries, environ datées à 340, 350 milliards d'années, qui était cette image un peu émouvante, justement, du premier être vivant connu, qui est effectivement une cyanobactérie. Et je vous ai mis ici une cyanobactérie capturée la semaine dernière dans la baie de Banyuls, là où je vis, en Méditerranée, incroyablement ressemblante, au niveau de la forme, bien sûr. Mais vous avez quand même 4000 millions d'années d'évolution entre les deux. Donc ceci, c'est extrêmement important, ça se faisait en milieu aqueux. On a beaucoup parlé de cellules tout à l'heure, on parlait en particulier de ces cellules, de ces archées extrémophiles, donc liées à la salinité de la mer morte, où effectivement on ne peut pas imaginer des pressions osmotiques différentes dans la cellule et hors de la cellule. On a vu qu'on équilibrait du potassium à l'intérieur et puis du sodium à l'extérieur. Depuis le début de la vie, c'est comme ça. Et pendant très longtemps, en fait, cette vie primitive marine, cette vie ancestrale, pas forcément primitive, c'était de l'eau de mer au niveau du milieu intérieur. Donc on passe ensuite, bien sûr, à des bactéries, puis une fabuleuse invention apparue dans le milieu aquatique, dans le milieu marin, c'est bien sûr l'apparition de la membrane nucléaire qui va donc séparer un noyau bien identifié au sein de la cellule ici, et un peu plus tard la capture de micro-organismes de l'environnement qui vont donc donner les mitochondries par symbiose et puis les plastes chez la lignée verte. On date ça à peu près à 1,7 milliard d'années. Donc ces événements se sont produits aussi en milieu aquatique, donc l'apparition du noyau et puis la capture des organites et le passage des hométazoaires classiques que vous connaissez à un peu moins de 1 milliard d'années. Donc des événements fondamentaux qui se sont déroulés dans l'eau au niveau du milieu extérieur depuis les origines de la vie. Le dernier point en fait, c'est le sexe. Vous savez que le sexe c'est très compliqué, mais ça a été une fabuleuse machine à créer la diversité biologique. Chaque organisme est différent, bien sûr après les métazoaires. Donc la vie sortira de l'eau, ce sera pour moi la deuxième grande vague de création, de diversification de diversité biologique, avec encore les cyanobactéries qui seront les premiers êtres vivants à sortir de l'eau vers à peu près 800 millions d'années, et plus récemment pour les lignées de métazoaires évoluées, environ 400 millions d'années, avec bien sûr ici donc de la lignée verte, et puis des premières espèces animales apparues, incroyablement ressemblantes, et puis des formes amphibies qui vont faire la liaison entre l'eau et puis l'air, avec des organismes comme ça qui respiraient à la fois dans l'eau et dans l'air, avec à la fois des branchies et puis déjà des poumons qui commençaient à s'élaborer. Et puis ensuite, bien sûr, donc toute la prévie des arthropodes, comme les colamboles, et puis ensuite le vol dans les forêts du carbonifère. Donc, pourquoi ce grand événement de création de diversité biologique? Parce que le milieu marin est extrêmement stable. On a beaucoup parlé de physique de l'eau, hein, voyons la physique globale de l'océan. Bon, les températures, vous avez des zones océaniques où entre la température maximale de l'hiver et de l'été, enfin minimale de l'hiver et maximale de l'été, c'est moins de 1,5 degré. Il n'y a aucun environnement terrestre, bien sûr, de ce type. Donc la vie avait effectivement affaire à des choses qui variaient beaucoup moins. La pression osmotique, la diffusion de la lumière dans l'eau, tout ça, bien sûr, est très stable. Et quand la vie sortira de l'eau, elle aura à se confronter à des événements extrêmement compliqués, ne serait-ce lié au fait, justement, qu'il n'y avait plus d'eau. Hein, tout à l'heure, on a vu le cas de l'eau dans la cellule. Donc, dès que la vie sort de l'eau, ben, elle recrée en fait un environnement hydraté. Elle recrée un être vivant qui contient, on a vu, donc, une cellule 70%. Si je prends un humain ici dans la salle, à peu près, c'est à peu près de, chez les garçons, on est un peu plus hydraté que chez les femmes, hein, qui sont un peu moins hydratées, elles ont un peu plus de lipides. Ça varie avec l'âge, ça varie avec le sexe. Hein. Un bébé humain à la naissance, c'est 71% d'eau, avec des mouvements extrêmement rapides entre les différents compartiments. Donc, cette eau, elle est absolument vitale et fondamentale. Et pour revenir à la question tout à l'heure de Paul, peut-on vivre sans eau? Sur la Terre, c'est difficilement envisageable. Même, je suis d'accord avec lui, si des formes de vie arrivent à s'en passer pendant un certain temps, mais ce n'est pas la forme de vie active. Hein. Les rotifères et les tardigrades, ils préfèrent nettement se trouver dans l'eau. Ils sont beaucoup plus heureux, si je peux me mettre dans la peau d'un tardigrade ou bien d'un rotifère, parce qu'ils vont se reproduire, bien sûr, lorsque l'eau est présente. Alors, l'eau aujourd'hui sur la Terre, 99%, c'est l'océan. L'eau côtière qui va être beaucoup plus variable, là on touche à des milieux, des environnements aquatiques qui sont beaucoup beaucoup plus variables puisque vous avez des apports d'eau douce, des apports terrigènes bien sûr, hein, de la terre vers la mer. Et je vous rappellerai simplement, lié à des questions d'environnement aujourd'hui 50% des humains actuels vivent au bord de l'eau. Au bord de la mer, cherchez les grandes mégalopoles. Si vous en avez Paris, effectivement, hein, Chicago ou Moscou, toutes les grandes villes que vous connaissez, elles sont au bord de l'océan. Et on revient à ces questions en fait d'eau qu'on évoquait tout à l'heure, bien sûr, avec des questions d'environnement très très aiguës aujourd'hui. Et ça ne va pas s'arranger. L'eau saumâtre, elle est extrêmement intéressante. Et pour le vivant, ça a été la résolution de beaucoup d'épreuves et de challenges. Je vous ai mis une image ici, argentine, chinoise et bretonne, où vous avez là des milieux extérieurs qui vont à peu près correspondre, bien souvent, à l'isotonie avec les cellules de métazoaires évoluées. C'est à peu près l'humain, je vous rappelle, 302 milliosmoles, hein, 145 millimoles de sodium, 110 moles de chlorure. Hein. Et l'eau de mer est extrêmement stable à l'extérieur. Il faut voir que l'eau de mer, elle est universelle. Et au moins depuis 100 millions d'années. Ça, c'est extrêmement important aussi. Milieu très stable depuis très longtemps. 560 millimoles de chlorure, 450 millimoles de sodium. Et ça, il faut le prendre en compte pour que vous compreniez justement les challenges que la vie a dû régler. Et surtout, bien sûr, après la sortie des océans ou le passage, bien sûr, par les eaux saumâtres. L'intérêt des eaux saumâtres, c'est que vous trouvez des isotonies de milieu intérieur d'espèces qui régulent. Et un petit poisson marin adore effectivement ces estuaires et puis ces lagunes parce qu'il y trouve des pressions osmotiques extérieur correspondant à celle de son milieu intérieur et de son milieu intracellulaire. Alors, les eaux douces, c'est très compliqué, bien sûr, de sortir une valeur, un contenu ionique de l'eau douce, parce que chaque eau douce est différente de l'autre. Mais là, Tchernas s'était lancé dans l'exercice il y a quelques années, et il trouve quand même que les ions, effectivement, des milieux de sa cuicole sont bien différents des ions marins. Donc, l'eau douce est un milieu aussi qui est très particulier, et beaucoup plus fluctuant et variable, bien sûr, que le milieu marin. Alors, si vous comparez maintenant, parce que mon propos, c'est de vous comparer un petit peu la vie dans l'eau et hors de l'eau, voici quelques éléments qui vous montrent justement des différences qui sont essentielles en matière de densité, de viscosité, de capacité thermique, d'indice de réfraction, de contenu en oxygène. Hein. Si je prends un volume d'eau de mer en équilibre avec l'air, vous avez 30 fois moins d'oxygène dans l'eau de mer que dans l'air. Et ça, c'est très important, bien sûr, à prendre en compte. Bien sûr, après, les aspects de conservation de l'eau. Quand on vit dans l'eau, effectivement, elle nous entoure en permanence. Quand on sortira de l'eau, il faudra recréer son petit milieu intérieur pour qu'on puisse garder cette eau si fondamentale au niveau cellulaire, mais aussi au niveau extracellulaire dans les organismes. Les caractéristiques de la vie dans l'eau, c'est effectivement qu'on doit vivre et respirer dans l'eau. Hein. Je mets à part les mammifères plongeurs et puis les oiseaux plongeurs qui vivent dans l'eau, mais qui sont un petit peu à part. Je vous rappelle que les mouvements et la stabilisation de l'organisme est quand même très différente dans l'eau grâce à la poussée d'Archimède. C'est beaucoup plus simple. C'est plus visqueux pour avancer, mais c'est beaucoup plus simple pour se maintenir. La respiration et l'excrétion sont fondamentalement différentes, ce qui fera effectivement que si on est aquatique et si on vit dans l'eau, on aura des formes d'excrétion, par exemple en utilisant l'ammoniac, très toxique quand vous vivez dans l'air, mais qui dans l'eau diffuse très très bien à travers ces couches de phospholipides qu'on évoquait au niveau des membranes et qui s'en vont vers l'eau de mer par la branchie. Alors que lorsqu'on sortira de l'eau, il faudra trouver des systèmes avec l'urée ou l'acide urique, par exemple, qu'utilisent les oiseaux, beaucoup de reptiles aussi. Au niveau de l'osmorégulation, c'est fondamental, je vais y revenir tout à l'heure, vous verrez que c'est la clé du système pour comprendre comment ça se passe, ces relations entre l'eau et les électrolytes, ces relations bien sûr liées aux créations de pression osmotique, qui sont une loi physique, qui vont équilibrer ces milieux. L'influence de la lumière, très spéciale dans l'eau, hein, en intensité, en qualité, en quantité, c'était très, très particulier. Et puis bien sûr des facteurs qui n'ont pas de sens au niveau terrestre, comme par exemple le pH ou la pression hydrostatique. Et toutes les questions de développement et de croissance dans les milieux aquatiques seront bien différentes du milieu terrestre. On se développe et on grandit dans les milieux aquatiques par des phénomènes de division cellulaire, d'hyperplasie, beaucoup plus que de grandissement cellulaire, qui sont le cas justement des animaux qui sont sortis de l'eau après le développement embryonnaire au sein de la maman. Alors là, je reviens un petit peu à ce que disait tout à l'heure Paul. Je vous ai mis les petits tardigrades, qu'il appelle les petits ours d'eau. Alors ils arrivent effectivement à des qualités d'hydratation absolument exceptionnelles. Ils arrivent à ne contenir plus que 10 ou 15% d'eau comme une graine, hein, mais ce sont des formes de résistance qui peuvent durer des centaines d'années, pas des formes de vie active. Et je vous ai mis au cours de l'évolution ici des contenus en eau. Alors regardez le noir, ce sont les solides dans les milieux effectivement intracellulaires, extracellulaires, depuis des annélides, polychètes, jusqu'à des mammifères. Vous voyez que l'eau, elle est absolument essentielle. Vous avez des groupes, ici les tuniciers, mais j'aurais pu mettre ici auparavant les coraux, les anémones de mer, les méduses, qui sont aussi hydratées à peu près au même niveau, largement au-dessus de 90%. Et cette eau est vraiment le solvant biologique universel du vivant sur cette planète. Comment a fait le vivant pour se jouer avec ces pressions osmotiques? Je rappelle, l'océan, 1050 milliosmoles partout. Le milieu intérieur, c'est de l'eau de mer. Au moins depuis les méduses jusqu'aux crustacés, c'est d'eau de mer, hein, chez Aomar, tout ce que vous voulez, c'est vraiment d'eau de mer au milieu intracellulaire, au milieu extracellulaire, bien sûr. Au niveau du milieu intracellulaire, on aura les mêmes pressions osmotiques avec des compositions différentes, on l'a vu dans le cas tout à l'heure de nos bactéries, avec le potassium très présent dans la cellule et le sodium et les chlorures présents hors de la cellule dans l'organisme. Et on voit que quelques groupes ici chez les crustacés commencent à être différents. Pour les vertébrés, c'est pareil. Pour les très ancestraux, comme les myxines ou les lamproies, on a des niveaux, ou les requins, on a des pressions osmotiques qui sont celles de l'eau de mer, alors qu'ensuite, on va commencer à réguler. Je vous rappelle que l'homme est à 302, où il y a un poisson téléostéen d'eau douce ou d'eau de mer, c'est très très proche en fait de l'humain. Donc là, c'est intéressant, les requins sont un petit peu à part, j'ai pas le temps de développer ça, mais eux, ils font une pression osmotique, non pas par des ions, mais par de l'urée, ce qui les met dans un cas très particulier et qui pose la question d'ailleurs de la remontée vers les eaux douces de deux ou trois espèces de requins qui ont appris à le faire. On comprend comment ils remontent en eau douce, mais on ne comprend pas comment ils reviennent. Alors, voici le schéma depuis les origines de la vie, en fait, dans le milieu marin, donc ce qu'on appelle la régulation isosmotique intracellulaire. On a exactement la même pression osmotique, la même composition ionique dans le milieu intérieur, le milieu extracellulaire, et puis l'eau de mer, pendant très longtemps. Je vous ai mis ici un petit bébé céphalopode à la naissance. Et puis, le niveau intracellulaire, bien sûr, a aussi la même pression osmotique, mais une composition ionique qui est différente. Ça, c'est la clé du sème pendant très longtemps. Alors, énergétiquement, ça ne coûte pas trop cher. Il n'y a quand même, il n'y a pas de gradient osmotique. Il y a quand même, bien sûr, des transferts ioniques. Et puis, à partir des arthropodes, ceci va un peu se compliquer, puisque les espèces vont commencer à ne plus être dépendantes du milieu pour maintenir une pression osmotique interne qui soit constante ici. Donc voici les espèces depuis le démarrage du vivant. Hein. Alors bien sûr, un micro-organisme, une bactérie, elle est forcément comme ça. Hein. Alors c'est intéressant de regarder ceux qui sont à la charnière. Et ce sont les crustacés les premiers qui vont réussir à le faire, et puis également des vertébrés. Et alors, ça reposera la question de la sortie de l'eau, parce que l'eau serait bien sûr de la vie par hasard. Hein. Il n'y a pas une bête un jour qui sera à tête de l'eau, qui se dit « Oh, les beaux biotopes que j'arrive à sortir », c'est pas comme ça. Par contre, c'est pas du tout par hasard, si seuls deux groupes parviennent à le faire, les arthropodes à l'époque et puis les vertébrés. Parce que justement, auparavant, ils avaient acquis ces capacités de maintenir une régulation qu'on appelle la régulation anisosmotique, puisqu'ils n'ont pas la pression osmotique du milieu intérieur, extracellulaire, parce que la clé sont toutes ces protéines qu'on a vues tout à l'heure, justement, qui sont entre la membrane et puis l'extérieur. Alors, juste pour vous résumer ceci, une méduse marine ou un grand requin océanique, donc on est isosmotique, bien sûr, mais bien sûr, on n'est pas iso-ionique, ça c'est clair. Hein. Donc, il y aura aussi quelques flux de sel. Des animaux d'eau de mer, comme les poissons téléostéens, qui, eux, ont une régulation, donc ils ont un milieu intérieur qui est beaucoup moins salé que le milieu extérieur, ils sont forcément hypo-osmotiques par rapport à l'intérieur, ce qui veut dire qu'à l'extérieur, ils auront des régulations qui vont coûter de l'énergie, avec des pompes ioniques que vous connaissez bien, la NAKTPase, le canal chlore, les canaux potassiques ou sodium, sont extrêmement importants dans les tissus régulateurs, c'est-à-dire la branchie, le rein, la vessie urinaire, par exemple, chez ces animaux, ils ont même des glandes à sel, certains arrivent à boire de l'eau de mer, donc ils vont éliminer ces sels grâce à ces glandes à sel, les canards marins, par exemple les tortues marines et puis aussi les requins, ce que nous on ne sait pas faire, une baleine ne sait pas faire ça non plus. Alors ensuite en eau douce, c'est compliqué parce que là on est hyper osmotique puisque l'eau douce est entre 10 et 20 milliosmoles à peu près, c'est pas de l'eau destillée l'eau douce, hein. D'ailleurs on a fait des manips, nos physiologistes, on a mis des poissons en eau distillée, ils ont horreur de ça, ils n'aiment pas du tout, puis ça ne dure pas très longtemps et vous voyez que là bien sûr ils seraient un petit peu plus salés que les milieux extérieurs. Et au niveau terrestre, je vous ai mis un animal qui boit jamais d'eau, un petit rat kangourou du désert, où là effectivement sa seule solution c'est de trouver de l'eau à partir de ce qu'il va, de l'eau qu'il va produire lui-même en consommant effectivement l'alimentation qu'il va récupérer, et avec des régulations très très importantes. Et ce petit animal contient, comme vous et moi aussi, hein, 65% d'eau dans son organisme. Alors la branchie est la clé, hein, depuis la nuit des temps, chez les métazoaires, la branchie est là. Je vous ai mis une image de branchie, ici c'est un turbo ici, en eau de mer, une image qu'on avait faite il y a quelques années. Les migrateurs sont extrêmement intéressants, hein, puisqu'eux ils sont capables, effectivement, je prends le cas du saumon, du anguille, de vivre en eau douce et en eau de mer, donc on les a beaucoup étudiés. J'ai personnellement beaucoup travaillé là-dessus, et donc on a pu mettre en évidence pourquoi ils savaient faire ça, comment ils arrivaient à le faire, en buvant de l'eau de mer en permanence, en urinant extrêmement peu, en eau douce, en ne buvant pas d'eau, et en ayant une urine extrêmement abondante et diluée en permanence, la branchie absorbant des sels en douce, la branchie rejetant des sels ici en eau salée. Alors je finis simplement par une histoire ici que certains connaissent bien, c'est pour vous montrer l'histoire évolutive à partir du milieu aquatique et puis le transfert après au niveau du milieu terrestre. C'est le professeur Walter Gehring qui travaille sur un gène, un master gene qu'il appelle PAX6. Et il s'est intéressé en fait à toute la phylogénie et puis à l'évolution de cette séquence d'ADN. En fait, pour faire un œil, il faut environ 2000 gènes. Et il a pu démontrer l'importance d'un seul gène qui contrôle les cascades de gènes des 2000 gènes en question. Alors, je vous ai mis ici des beaux yeux d'humaine, ici, là, puis des yeux du chat à la maison. La même séquence d'ADN met en place des yeux aussi compliqués et aussi différents que des yeux de libellules, humains, d'étoiles de mer ou de coquilles Saint-Jacques. Alors, bien sûr, il avait fait la manip fabuleuse en 1994 de surexprimer PAX6 sur des embryons de drosophiles. Il a eu ses yeux ectopiques que vous connaissez. Ça a fait la une, non seulement de Science, mais aussi du New York Times et de tous les grands journaux de la planète, hein, sur les antennes, sur les ailes, ici. En l'invalidant, bien sûr, on n'obtient pas Dieu. Et très récemment, il a retrouvé ça chez des méduses marines. Il a pu démontrer que PAX6 n'existe pas encore à l'époque. C'est 800, mais c'est PAX2, un ancêtre de PAX6 qui est en place. Et tout récemment, ils ont trouvé des séquences, non pas d'ADN mettant en place les yeux, mais codant des protéines jouant un rôle fondamental dans la vision, hein, chez des micro-organismes marins monocellulaires qui sont ici des dinoflagellés, c'est Erythropsis. Donc voilà une très belle histoire, justement, une histoire d'eau, à partir effectivement de la mise en place de ses yeux. Et je terminerai par ma dernière image, mon avant-dernière image. C'est simplement, je me suis amusé à regarder tous les prix Nobel qui ont été obtenus à partir de modèles marins. Et j'en ai trouvé quand même 8. J'ai eu la chance encore, j'ai eu de l'eau de mer à mon moulin apportée par Shibomura en 2008 avec ses travaux sur les protéines de fluorescence verte. Donc Metchnikov découvre la phagocytose grâce à l'étoile de mer. Charles Richet découvre le choc anaphylactique grâce aux méduses. J'oublie le pauvre Otto von Warburg qui est là-haut. Donc lui travaille sur les vagues calciques post-fécondation pour éviter la polyspermie grâce à l'oursin. Huxley Hodgkin travaille, eux, bien sûr, sur l'axone de Kalmar, qui est vraiment un cadeau de la diversité biologique. Hein. L'axone est 1000 fois plus gros qu'un axone de vertébrés supérieurs. Eric Kandel a le prix Nobel en 2000 pour ses travaux sur Alzheimer. Il travaille sur les bases moléculaires de la mémoire grâce à cet petit animal marin qui s'appelle une aplysie. Et alors qu'il y a 3 milliards de neurones dans un crâne humain, il n'y en a que 20 000, hein, notre aplysie. Et puis Tim Hunt a le prix Nobel pour la découverte du facteur clé du cancer, donc l'association de molécules, donc CDC-cycline, grâce à l'étoile de mer. Et tout récemment, ça m'en fait un de plus, Shimomura décroche le prix Nobel en octobre 2008, grâce à ses travaux sur les protéines de fluorescence verte de méduse, qui sont maintenant complètement banales dans tous les labos de biologie moléculaire et qui vous rendent des services inestimés et inestimables. Et c'est sûr que ce truc a été inventé il y a 800 millions d'années, chez des animaux complètement discrets, et qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier. Donc ma conclusion, molécules clés au niveau également organisme, au niveau macroscopique de cette eau, au niveau du vivant sur la Terre. On est constitué d'eau. C'est le solvant universel, bien sûr. Les différences sont fondamentales hors de la cellule et dans la cellule, mais les contenus en eau jouent un rôle extrêmement important. La vie dans l'eau, la vie hors de l'eau. Je vous rappelle aussi que cette vie est apparue d'abord dans l'océan et que les grands événements du vivant se sont déroulés en milieu aquatique et que c'est très récent que cette vie ait pu sortir de l'eau. Qu'aujourd'hui, la sortie de l'eau a été effectivement aussi un événement extrêmement important. Et enfin, qu'aujourd'hui, l'homme utilise plus de 50% de la masse d'eau utilisable, classique, non souillée actuellement. Et que si on continue comme ça, on va dans le mur. Et donc que demain, effectivement, cette eau va encore jouer des rôles, non seulement au niveau cellulaire, au niveau extracellulaire, mais également probablement aussi au niveau social. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre Gilles Boeuf sur la question de l'eau dans la biodiversité. Le précédait Paul Carreau et Bernard Cabanne, tous deux correspondants de l'Académie des sciences. Tous les trois s'exprimaient au cours d'une séance de l'Académie qui avait lieu en mars 2009 et qui portait sur l'eau dans les systèmes biologiques. Restez avec nous et téléchargez la deuxième partie de cette séance retransmise sur Canal Académie. Vous la trouverez dans l'onglet « Les émissions » en séance, rubrique Académie des sciences. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines émissions.